Alors, si vous voulez, on va vous lever, on va lire la parole Genèse au chapitre 25 et versets 12 à 18. Genèse, chapitre 25, versets 12 à 18. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Agar, l'Égyptienne, servante de Sarah, avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom, selon leur génération. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Abbeel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Téma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, ce sont là leurs noms selon leur parc et leur enclos. Ils furent les 12 chefs de leur peuple. Et voici les années de la vie d'Ismaël, 137 ans. Il expira et mourut, et fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Donc, vous vous asseoir. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui. Quand on étudie un livre comme la Genèse, et qu'on lit un petit passage comme ça, parce que souvent, on ne lit pas un livre dans tout son ensemble. Hein. On lit des petits passages. Et quand on lit un passage et qu'on ne se rappelle pas que ce que le Seigneur avait dit avant, quand on ne regarde pas le passage dans le contexte de la promesse de Dieu. Parce que le livre de la Genèse, depuis Genèse 3:15, on a regardé que le Seigneur avait promis l'envoi d'un Messie et à Abraham, il s'était révélé en disant que c'était par sa descendance et par ses fils, qu'éventuellement arriverait le Messie dans le temps. Et si on lit un passage comme ça, et on ne fait pas référence à ce que Dieu avait promis, à quelque part, là, qu'on manque l'idée principale du texte. Alors, aujourd'hui, on va regarder que Dieu est fidèle. Le titre que j'ai donné au sermon d'aujourd'hui, la fidélité divine envers Ismaël et sa postérité. Ismaël, c'était qui? C'était le fils que la femme d'Abraham, Sarah, avait eu un doute quant à la capacité de Dieu de lui donner un fils, puisqu'elle était, lui était rendu trop âgé, elle aussi était rendue trop âgée, puis en plus elle était stérile. Fait que quand tu te fais donner, le fait qu'elle était stérile lui avait pas été confirmé par les médecins. Aujourd'hui, ce seraient les médecins qui te confirmeraient que tu es stérile. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle avait déjà essayé autant comme autant. Ça ne fonctionnait pas. Alors, la femme, Sarah, elle avait eu un petit problème de doute. Et à l'époque, ça se faisait de dire au mari, « Prends la femme de ma servante et aie un enfant avec lui. » Parce qu'à l'époque, c'était accepté que si tu avais un enfant avec une servante, l'enfant devenait ton enfant. C'était ça à l'époque que ça s'était accepté. Alors, on a vu que Dieu lui avait été intervenu pour lui dire que non, ça ne sera pas Ismaël qui va être ton fils. Je t'ai dit que ça va être ton fils que tu vas enfanter. Puis là, à un moment donné, il lui avait dit que ça va être l'an prochain, à la même date. Et on a su que, bon, éventuellement, Dieu avait accompli sa promesse. Mais le texte d'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si tu ne regardes pas ce que Dieu avait dit, Dieu avait fait des promesses à Agar et Dieu avait fait des promesses à Ismaël. Et si on regarde le texte d'aujourd'hui sans se rappeler ces promesses-là que Dieu avait faites, à quelque part là, on manque le bateau. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est vraiment la fidélité de Dieu envers la fidélité divine, envers Ismaël et aussi sa postérité, parce que les promesses que Dieu avait faites ne touchaient pas Ismaël juste dans son contexte immédiat de sa vie. Là. C'était sa postérité, autrement dit, sa postérité d'Ismaël, c'était les Arabes. Donc, les Arabes sont encore là aujourd'hui. Donc, quand on parle d'une prophétie comme celle d'aujourd'hui, dans quelques versets, on parle des descendants d'Ismaël, comment Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Agar et comment Dieu a accompli la promesse qu'il avait faite à Ismaël et à Abraham. Et tout cela, aujourd'hui, on voit ça dans le texte, comment Dieu a accompli cela dans ces petits versets-là. Souvent, on lit, puis on voit juste des noms, puis on ne comprend pas vraiment ce que Dieu est en train de faire. Mais il faut vraiment rattacher le texte d'aujourd'hui avec ce que Dieu avait promis avant. Sinon, quelque part, tu ne comprends pas exactement ce qui se passe, puis pourquoi Dieu a introduit ce chapitre-là, ces petits versets-là dans ce chapitre-là. La Bible nous invite toujours à regarder en avant. Voyez-vous, Dieu avait fait une promesse dans Genèse 3:15, après la chute de l'homme. Il avait dit qu'il enverrait un Messie, le Messie Jésus. Le Messie promis, ça a pris combien de temps avant qu'il vienne? Énormément d'années. Alors, la Bible nous invite à regarder ce qui s'est passé depuis la promesse et tout le développement de cette promesse-là, comment ça s'est fait historiquement. Alors, elle nous regarde, la Genèse nous invite à regarder en avant. Autrement dit, oui, Abraham a eu son fils, mais il y a eu un autre fils aussi, mais Dieu avait fait des promesses pour ce fils-là aussi. Et on voit dans le texte d'aujourd'hui comment Dieu est fidèle à sa parole, comment Dieu accomplit les choses qu'il... Alors, la Bible ne se contente pas de nous donner des grandes figures comme Abraham, Noé, Isaac, Jacob et tout ça. Et tout cela, ça a un but. C'est toujours le but de nous amener à voir l'accomplissement de ce que Dieu avait promis. Alors, on doit réaliser que tous les personnages dont on parle dans les Écritures, ce n'est que des jalons dans l'histoire de la rédemption ou l'histoire du salut. Alors, l'accomplissement des promesses divines, on pourrait dire que c'est le fil conducteur du livre de la Genèse, et non seulement du livre de la Genèse, toute la Bible au complet. Toute la Bible au complet parle de l'accomplissement de la promesse divine d'envoyer le Messie. Alors, Dieu a promis que la postérité de la femme, vous vous souvenez de ce passage-là, la postérité de la femme, qui était le futur Messie, écrasera la tête du serpent. Le serpent, on le sait que c'est Satan. Quand le Christ est venu, il a écrasé la tête du serpent. Alors, pour que le règne de Dieu s'établisse sur la terre, il faut briser le pouvoir du grand séducteur qui tenta Adam et Ève et plaça l'humanité sous sa domination. De quelle manière les descendants d'Ismaël conduisent-ils à Christ? On disait tantôt que tous les passages des Écritures, il y a toujours un fil qui nous conduit à Christ. Mais le passage d'aujourd'hui, on peut se poser la question, de quelle manière les descendants d'Ismaël, qui sont les Arabes, conduisent-ils à Christ? Alors, la lignée d'Ismaël n'aboutit pas à la postérité du Messie. On sait que ce n'est pas par Ismaël que le Messie est venu, mais c'est plus par Abraham, Isaac, Jacob. Alors, la lignée d'Ismaël ressemble davantage à celle de Caïn, à celle de Cam et à celle d'Ésaü. Dans ces conditions, pourquoi le Seigneur veut-il consacrer une section entière à la postérité d'Ismaël? Selon vous, c'est quoi? La fidélité divine à ses... Il fait des promesses, des fois on les oublie, mais quand on le relit avec le texte qu'on lit aujourd'hui, là on voit que Dieu est fidèle dans ses affaires. C'est très sans aucun doute que c'est dans le texte aujourd'hui, c'est pour nous montrer que le Seigneur accomplit toujours ses promesses. C'est quelque chose d'intéressant avec les Écritures. On parlait des Écritures un matin, le sceau des sept, tout ça. Mais les Écritures, faut se réaliser que quand Dieu fait des promesses, je vous avais déjà parlé d'un livre de promesses divines, hein? Éventuellement, peut-être ça va se réaliser, mais de tout prendre les promesses que Dieu a faites dans les Écritures, il y en a des milliers. Et la chose intéressante, c'est qu'avec les hommes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie qu'un homme ou une femme ou un enfant vous fasse une promesse, puis que ça n'arrive pas. Dans les hommes, ça arrive extrêmement souvent. Mais Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a jamais fait quelque promesse que ce soit sans que ça l'arrive. Et quand on parle qu'il existe, toutes les promesses que Dieu a faites dans les Écritures, il y en a qui les ont sorties. On en a parlé éventuellement. Et on a le projet de mettre ça en français, de rendre ça disponible. Dieu a fait des promesses sur une multitude de sujets. Et la chose la plus intéressante de savoir, c'est que ça s'accomplit. Toujours. Ça, là, pas comme les hommes, c'est boiteux, les promesses des hommes. Souvent, on va dire des promesses des hommes, des promesses d'ivrogne, on appelle ça. Ça s'accomplit pas. Alors, mais Dieu, ce qui est intéressant quand on lit les Écritures, quand Dieu fait une promesse, il accomplit sa promesse. Et aujourd'hui, le but du passage, comment ça s'inscrit, faut prendre conscience que quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit tout le temps. Alors, Dieu veut nous montrer, par ce passage-là, qu'il est miséricordieux. Et autre chose qui n'est pas mentionnée comme telle, mais qu'on peut le déduire par d'autres passages des Écritures, c'est que le salut, même s'il ne viendra pas par Ismaël, éventuellement le salut va s'étendre aux Arabes. Vous souvenez-vous ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit est descendu? Et est-ce que vous vous souvenez qu'il y avait des Arabes là-dedans? Le mot « arabe » est dedans. Donc, Dieu, le jour de la Pentecôte, il y avait des Arabes, les gens parlaient tout dans leur langue, et il y avait des Arabes à l'intérieur de ça. Donc, autrement dit, le passage d'aujourd'hui a pour but non seulement de nous démontrer que le Messie ne viendra pas par Ismaël, mais qu'éventuellement le salut va s'étendre jusqu'aux Arabes. Les Arabes aussi vont en profiter. Même si c'est des descendants d'Ismaël, ils vont en profiter éventuellement eux aussi. Alors, on va regarder, on a lu ce matin le passage de 12 à 18. Il faut se rappeler qu'est-ce que Dieu avait fait avec Agar. Agar, c'était qui? C'était la servante d'Abraham avec qui Sarah lui avait dit à son mari, « Va avec elle, puis on va en avoir un enfant, puis ça va être lui l'enfant de la promesse. » Elle pensait que c'était le même temps marchait. Alors, pour bien comprendre et apprécier le passage qu'on lit aujourd'hui, on se doit de reconsidérer les relations du Seigneur avec Agar et aussi avec son fils Ismaël. Quand on fait ça, là, on voit ça comme une fidélité de Dieu à l'accomplissement de ses promesses. Alors, on va revoir l'histoire biblique d'Agar. Et on va revoir aussi l'histoire biblique d'Ismaël et on va voir comment le passage d'aujourd'hui vient accomplir ces choses-là. Alors, intéressant, des fois quand on regarde des articles dans le nouveau dictionnaire, moi souvent j'utilise le nouveau dictionnaire biblique Emmaüs, c'est une brique, mais ça vaut la peine de vous acheter ça. Si vous avez 80$ de lousse, là, comme on dit, là, achetez-vous ça. Parce que quand vous allez regarder un nom comme Agar ou un nom comme Ismaël dans ce dictionnaire-là, l'auteur va vous faire prendre conscience de certaines choses. Et ça, c'est important de les réaliser, ces choses-là. Voici ce que son nom, nouveau dictionnaire biblique des éditions Emmaüs, au mot Agar, qu'est-ce qu'il dit? Et à celui d'Ismaël. Alors, on va lire ce que le dictionnaire biblique dit sur Agar et qu'est-ce que le dictionnaire biblique dit sur Ismaël. Alors, le mot Agar. Premièrement, c'est intéressant de savoir que chaque nom qu'on lit des Écritures dans l'hébreu, ça a toujours une signification. Le mot Agar signifie fuite. Vous souvenez-vous qu'est-ce qui était arrivé? Bon, il l'avait envoyé dans le désert et ça signifiait fuite. Donc, elle avait été obligée de... Parce que Sarah n'était pas de bonne humeur après elle et elle a dit, cette femme-là, là, il faut qu'elle débarrasse là, parce que ça n'ira pas bien. Alors, ça dit, pour Agar, esclave égyptienne de Sarah, Abraham l'acquit peut-être pendant son séjour en Égypte. Abraham était depuis 10 ans dans le pays de Canaan. Sarah n'avait pas d'enfant, âgée de 76 ans. Elle n'espérait plus mettre au monde le fils promis et déplorait de ne pas avoir part à la promesse. Sarah se proposa d'employer les moyens terrestres pour assurer un fils à Abraham et pour obtenir le titre de mère du Messie, du moins de la transmission que ça passerait par elle. Alors, conformément à une coutume du temps, elle donna sa servante à Abraham. Lorsqu'Agar se sut enceinte, elle méprisa sa maîtresse qui la rudoya. Agar s'enfuit au désert. L'ange de l'Éternel l'y trouva près d'une source, entre Cour et Bézed, lui révéla l'avenir de l'enfant qu'elle portait et lui ordonna de retourner sa maîtresse. Voyez-vous, Dieu la rencontre dans le désert, puis est en train de lui faire la promesse de qu'est-ce que sa descendance va être, puis combien de temps ça va durer, c'est énorme. Agar appela ce puits le puits du vivant qui me voit. Elle revint auprès de Sarah, et au temps échu, donnant naissance à Ismaël. Quelques 15 ans plus tard, le jeune homme Ismaël se moqua du petit Isaac. Alors, on sait qu'Isaac est arrivé, il y a eu une fête quand il est arrivé à 15 ans, et là, il s'est moqué du fils, du vrai enfant, là, de Sarah que Dieu lui avait promis. À cause de cette attitude injurieuse, Ismaël et Agar, avec une outre d'eau sur l'épaule, même, tu t'en vas dans le désert, tu as juste une petite outre d'eau. Tu ne vis pas longtemps juste avec une petite outre d'eau. Là. Furent, sur l'ordre de Dieu, exclus de la famille d'Abraham. Ils errèrent dans le désert de Beersheba jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus d'eau. Tu t'en vas, une femme avec un enfant dans le désert, tu as juste une petite. Quand il n'y a eu plus d'eau, là, tu réalises, oh, je suis dans le trouble. Alors, ne pouvant plus soutenir le jeune garçon, qui était complètement épuisé, Agar le plaça à l'ombre d'un arbrisseau, puis s'assit à une portée d'arc, afin de ne pas le voir mourir. Autrement dit, elle était certaine que son fils était pour mourir. Elle dit, j'aime autant m'en aller loin, je ne veux pas voir ça. Le voir mourir de soif. L'ange de l'Éternel intervint de nouveau, lui indiqua un puits à proximité et lui rappela la promesse concernant l'enfant. Là, c'est là qu'on voit, concernant la promesse. Dieu fait des promesses, il accomplit ses promesses. Le dernier passage nous la montre choisissant pour son fils une femme du pays d'Égypte où elle était elle-même née. Alors, on voit que son cheminement, elle aurait dû comprendre avec le fait d'avoir vécu avec Abraham et sa femme, il aurait dû comprendre de ne pas donner à son fils une Égyptienne comme femme. Mais il ne semble pas qu'elle avait compris la leçon. Maintenant, Ismaël. Alors ça nous replace un petit peu dans le contexte d'Agar. Ismaël, son nom signifie, c'est très significatif, Dieu entend. Elle était dans le désert et son fils... Elle s'en allait mourir, et son fils également. Et le nom d'Ismaël veut dire « Dieu entend ». C'est spécial. Hein? Alors, fils d'Abraham et d'Agar, la servante égyptienne. Il naquit lorsque Abraham, âgé de 86 ans, eut séjourné 10 ans en Canaan. Ismaël est issu de la sagesse charnelle et non de la foi. Pourquoi sagesse charnelle? Parce qu'elle a essayé de régler, la promesse de Dieu par des moyens charnels et non pas croire que Dieu était capable de le faire. Alors, il est fils d'un père qui, face à la promesse de Dieu, se laissa aveugler par les impossibilités apparentes et se force d'obtenir par des moyens humains l'effet de la promesse. Autrement dit, c'est pas l'homme qui va régler. Quand Dieu fait une promesse, qu'il va te donner un fils, là, crois donc Dieu, puis essaye pas de ranger le problème avec tes propres moyens. Quand la circoncision fut instituée pour la famille d'Abraham, Ismaël la subit à l'âge de 13 ans. L'année suivante, naquit Isaac, alors que sa mère avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Il était le fils de la promesse et la réponse de Dieu aux doutes de ses parents. Lors de la fête du sevrage d'Isaac, Ismaël se fit remarquer par son attitude ironique. Pour la première fois, dans la famille d'Abraham, celui qui était né de la chair et de l'incrédulité se moquait de l'héritier de la promesse. L'apôtre Paul, ce qui est intéressant aussi, c'est de prendre ces histoires-là, de voir comment Dieu en parle dans le Nouveau Testament pour illustrer des choses. Par exemple, l'apôtre Paul a tiré une allégorie de cet incident-là, dans Galates, chapitre 4, versets 22 à 31. Le comportement malveillant d'Ismaël entraîna son expulsion et celle de sa mère. Ils errèrent dans le désert de Beersheba jusqu'à ce qu'ils fussent prêts de mourir de soif. L'ange de l'Éternel dirigea Agar vers un puits au milieu des arbrisseaux, ce qui sauva sa vie et celle de son fils. Celui-ci grandit dans le désert de Paran, au sud du pays de Canaan, et vécut de son arc, et il devint un habile tireur. Ismaël épousa une femme qui, comme Agar, était égyptienne. Il fut l'ancêtre de 12 princes, les tribus arabes qui ont entouré toujours Israël au cours de leur histoire. C'était l'effet de la promesse de Dieu. La promesse de Dieu faite à Abraham. Ismaël eut aussi une fille qui épousa Ésaü. Ça, c'est spécial aussi. Quand tu regardes l'histoire de la famille, là, c'est que non seulement elle n'a pas compris, mais elle a fait marier son fils avec une Égyptienne, puis elle a eu une fille aussi, puis cette fille-là a marié Ésaü. On sait que dans l'histoire de la Bible, Ésaü... Alors, quelque part, on voyait que la famille était plutôt partie dans des chemins qu'on pourrait dire charnels. On va aller la lire, l'allégorie. Parce que le texte de la Genèse, Paul a vu, parce qu'il avait une vision spirituelle, a compris que ça avait une valeur symbolique. Ismaël, Agar, puis le vrai fils. On va le lire, on va comprendre mieux. Galates chapitre 4, versets 22 à 31. Là, Paul, il dit, « Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. » L'un de la servante et l'autre de la femme libre. Verset 23. Mais celui de la servante fut engendré selon la chair, et celui de la femme libre le fut par l'effet de la promesse. Autrement dit, il est en train de dire, Ismaël, ça a été une affaire de chair, et le fils de la promesse, ça a été vraiment l'accomplissement d'une promesse divine. Verset 24. Ces choses sont dites allégoriquement, car ce sont là les deux testaments, l'un de la montagne de Sina, ou Sinaï, qui engendre pour l'esclavage chez Agar. Tu es en train de parler que les Juifs qui étaient dans l'Ancien Testament, ça ressemblait à Agar parce que c'était les fils de la promesse de façon charnelle. Car ce type, verset 25, Agar est la montagne de Sinaï en Arabie et correspond à la Jérusalem de maintenant. Jérusalem de maintenant, c'est à l'époque de Galate. À Jérusalem, c'était les Juifs, mais qui correspondaient à Agar. Oui, il prend deux personnages de l'Ancien Testament et il vient illustrer un principe que les Juifs étaient comme des fils de charnel et que les chrétiens, eux, sont plus le fils de la promesse. Intéressant. Verset 26. « Or, elle est asservie avec ses enfants. Quant à la Jérusalem d'en haut, elle est libre, c'est notre mère à nous tous. » Il est en train de parler de la Jérusalem de charnelle, de la Jérusalem céleste. Verset 27, « Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, qui n'enfantais point, éclate et pousse des cris, toi qui n'étais point en travail d'enfantement, parce qu'il n'y a pas beaucoup plus d'enfants de la délaissée que celle qui avait un mari. » Pour nous, frères, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Cependant, de même qu'alors celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, il en est de même aussi pour aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil? Ismaël se moquait du fils de la promesse. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas régénérés, qui ne sont pas chrétiens, se moquent encore des chrétiens. Alors, c'est la chair vis-à-vis de la promesse. Et ça a toujours resté, et Paul s'en rendait très bien compte. Mais le verset 30, il dit, « Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point. » C'est intéressant de quand on prend des passages de l'Ancien Testament comme ça, et on voit comment Paul les comprenait, et il voulait qu'on voit que c'est un symbole de deux attitudes face à la grâce de Dieu. Une qui essaie de régler les problèmes, qui essaie de gagner son salut par ses propres moyens, comme les Juifs, et ceux qui croient en la promesse, en Jésus, et qu'on croit en lui, comme ayant accompli à la perfection la loi de Dieu, dans ces deux dimensions, subir le châtiment, Et aussi l'autre dimension qui est d'accomplir à la perfection ce que Dieu nous commandait. C'est fait par Jésus-Christ. Alors la promesse, il faut voir ces choses-là et les transposer dans le Nouveau Testament, ça nous aide à comprendre. La deuxième point qu'on va regarder, c'est la fidélité de Dieu exprimée par l'accomplissement prophétique. Les bénédictions que reçurent Agar, Ismaël et sa descendance sont le résultat de plusieurs choses. La prière d'Abraham. Ça aussi, quand on lit le passage d'aujourd'hui, il faut regarder comment Abraham avait intercédé pour son fils, Ismaël. Voyez-vous dans Genèse 17, verset 18, 18 à 20. « Et Abraham dit à Dieu, « Si seulement Ismaël vivait devant ta face, il avait peur que ça ne marche pas, là, que Dieu ait aucun égard pour lui. » Et Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu appelleras son nom Isaac, qui veut dire rire, et j'établirai mon alliance avec lui comme alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » Verset 20, c'est ici l'importance de voir comment Dieu accomplit sa promesse. Verset 20, Genèse 17, « Et quant à Ismaël, je t'ai écouté. » C'est Dieu qui parle. « Quant à Ismaël, je t'ai écouté. Voici, je le bénirai. » Et je le ferai fructifier, et je le multiplierai immensément. On a-tu la preuve de ça aujourd'hui? Les Arabes, c'est très nombreux comme. Et il engendrera 12 princes. C'est Dieu qui parle. Suite à une promesse, à une prière faite par Abraham, Dieu répond en lui disant, non seulement je vais le bénir, je vais le faire fructifier, je le multiplierai immensément. Hey, il ne va pas que le dos de la cuillère, là. C'est Dieu qui parle, des mots importants, immensément. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Les Arabes, aujourd'hui, je ne sais pas le total, il faudrait que je regarde dans les encyclopédies, là, mais c'est très certainement plusieurs millions de personnes. Maintenant, il y avait une prière d'Abraham. Il y avait aussi des promesses divines qu'on peut lire dans Genèse 16, les versets 9 à 14. Dieu avait fait une promesse à Agar. On sait qu'ils ont été rendus dans le désert, mais Dieu avait fait une promesse. 16, versets 9 à 14. « Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous ta main. » Ça n'a pas dû être facile pour elle de faire ça, là. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter tellement elle sera nombreuse. » C'est Dieu qui parle. Et l'ange de l'Éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ismaël, qui veut dire « Dieu entend. » Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage. » Ici, on parle du caractère des Arabes en général. « Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il habitera en face de ses frères. » Autrement dit, l'histoire, quand on regarde la Bible, on voit que les Arabes, en général, ont toujours habité autour d'Israël et ils ont toujours été en opposition. C'est ça qu'il est en train de dire. Quand il dit « il habitera en face », pas juste la question de la géographique, c'est la question de l'attitude qu'ils vont avoir face au peuple de Dieu. Verset 13, « Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, « Atta Elroy, tu es un Dieu qui me voit. » Car elle dit, « N'ai-je pas même ici vu que tu me voyais ?» C'est pourquoi on appela ce puits, le puits de l'Akoï Roy, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadesh et Bered. Alors, on a vu tout à l'heure dans le verset 20 que Dieu, « Et quant à Ismaël, je t'ai écouté. » Tout à l'heure, quand on a vu, Abraham a fait une promesse, Dieu dit, « Et quant à Ismaël, je t'ai écouté, voici, je le bénirai, je le ferai fructifier, je le multiplierai abondamment. » Et dans le verset Genèse 21, 8 à 13, « Et l'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Et Sarah vit le fils d'Agar, l'Égyptienne, qu'elle avait enfanté à Abraham riant. » Autrement dit, elle se moquait de son fils, qui est Dieu, qui était la réponse à la promesse. Et elle dit à Abraham, « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Et cette parole fut très mauvaise aux yeux d'Abraham. Imagine, c'est ton fils. Là. Puis elle a dit, « Oui, qu'il décolle, ça va pas bien. » au sujet de son fils. Et Dieu dit à Abraham, « Qu'il n'y ait rien de mauvais à tes yeux touchant la jeune garçon et touchant ton esclave, quoi que te dise Sarah, écoute sa voix, car c'est en Isaac que ta postérité sera appelée. Et quant au fils de l'esclave, j'en ferai aussi une nation. » Alors, quand on recule et on regarde ces passages-là, on voit comment le petit passage qu'on lit aujourd'hui s'inscrit dans un accomplissement de promesse. Alors, même si Ismaël ne fait pas partie de l'alliance divine de la promesse, le Seigneur le bénit cependant temporellement, dans le sens du nombre d'enfants, par la postérité et le nombre des descendants, qu'il est le fils d'Abraham. Cependant, il n'est pas exclu à tout jamais de l'accès au salut, comme nous le verrons dans le point suivant. Très intéressant d'aller voir aussi comment le petit passage d'aujourd'hui, c'est comme une ouverture. Non, le Messie ne viendra pas par lui, mais en termes de nombre d'une grande nation, je vais le réaliser, et la porte est ouverte à la réception future du salut pour les Arabes. Ça, c'est intéressant, très intéressant. Alors, on va dans Ésaïe 60, au verset 1 à 7. Ésaïe 60, verset 1 à 7. « Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue, et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Car voici, les ténèbres couvriront la terre, et l'obscurité couvrira les peuples, mais sur toi se lèvera l'Éternel, et sur toi paraîtra sa gloire, et les nations marcheront à ta lumière. » Voyez-vous, dans le livre d'Ésaïe, c'est un livre de prophétie. Il est en train de parler que le salut ne s'adresserait pas uniquement aux Juifs, c'est que les Juifs, à l'époque de Jésus, avaient la certitude que le salut était fermé à toutes les nations excepté à eux. Mais il y avait quand même des prophéties, voyez-vous, comme celle-là, le verset 60, verset 3, « Et les nations marcheront à ta lumière. » On parle de Jésus-Christ. « Les nations marcheront à ta lumière. » Donc, à quelque part, il aurait dû savoir, les Juifs, à l'époque de Jésus, que le salut pouvait aller plus loin qu'à eux. Et les rois, à la clarté de tes rayons. Ce qui est intéressant, c'est le verset 6 et 7. « Une multitude de chameaux couvrira ton pays, les dromadaires de Madian et d'Épha, tous ils viendront de Sheba. » Ils apporteront de l'or et de l'encens, ça vous dit quelque chose? Oui, bon. OK, et ils publieront les louanges de l'Éternel. Toutes les brebis de Kédar, c'est là qui est intéressant, seront rassemblées vers toi, les béliers de Nébajot. C'est quand on lit ça, si on ne fait pas le lien avec les noms qu'on a lus tantôt. Vous avez vu tout à l'heure, on a eu toute une série de noms, là. On n'est pas porté vraiment à s'arrêter là-dessus, parce que tous des noms, on n'est pas habitué à ça, Nébajot. Mais c'est intéressant de voir que dans une prophétie, on parle des brebis de Kédar seront rassemblées vers toi et les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront en agréable odeur sur mon autel. Je rendrai magnifique la maison de ma gloire. Si on recule dans Genèse 25, verset 13. Et voici les noms d'Ismaël, leurs noms selon leur ordre de naissance. Le premier-né, Nébajot, puis Kédar, Abdéel, Mitsam. Si on prend les deux noms, Nébajot et Kédar, et qu'on s'en va dans Ésaïe 60, verset 7, il est en train de parler que ces gens-là vont venir à la lumière. C'est rare qu'on fasse, à moins qu'un auteur nous le fasse remarquer, là, c'est rare qu'on fasse ces liens-là. Pourtant, ils sont très intéressants. Encore plus intéressant, c'est dans Acte 2, la journée de l'Esprit est descendu. On va le lire verset 5 à 11, Acte 2, verset 5 à 11. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ce bruit ayant eu lieu, il s'assembla une multitude qui fut confondu de ce que chacun les entendait dans sa propre, parler dans sa propre langue. Tout le monde parlait des langues différentes, puis tout le monde comprenait ce que les autres disaient. C'était un peu comme si vous mettriez, c'est un Chinois, un Allemand, un Espagnol, puis tout le monde parle, puis vous les écouteriez parler, vous comprendriez. Quelque chose qui se passe, là. Et ils étaient tous hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, se disant les uns aux autres, « Ces gens-là qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment donc les entendons-nous parler dans la langue, dans la propre langue du pays où nous sommes nés? Partes, Mèdes, Élamites et ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont et l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les quartiers de la Libye qui est près de Cyrène et les étrangers romains, juifs et prosélytes, verset 11, crétois et arabes. » Voyez-vous? C'est que Dieu dit, ce ne sera pas Ismaël, la lignée messianique ne passera pas par Ismaël. Cependant, il n'était pas complètement... Dieu aurait pu s'exclure. Comme on dit... Il n'aura pas eu accès à la grâce, mais Dieu montre ici dans Acte 2 que même les Arabes ont eu accès à la grâce de Dieu. Il dit, et Arabes, et nous les entendons parler en nos langues des merveilles de Dieu. Alors, quel que soit l'arrière-plan d'une personne, il y a toujours de l'espoir par le Seigneur Jésus-Christ, par, bien entendu, la postérité promise. Quand on lit dans Romains 11, versets 11 et 12, on sait que les Juifs, quand Jésus est venu, on a appelé ça leur chute. Ils n'ont pas su reconnaître Jésus comme étant leur Messie. Et la Bible nous dit que Dieu a permis leur chute pour notre relèvement. Il y a quelque chose de tellement glorieux et de merveilleux dans la parole de Dieu. Si les Juifs avaient reconnu leur Messie, ils avaient quand même fait la... Mais c'est quand même intéressant de voir... Regardez, on va lire le Romains 11, versets 11 et 12. « Je demande donc, ont-ils bronché afin de tomber? Nullement. Mais le salut est venu aux gentils. » C'est qui, ça, les gentils? C'est nous. Le salut est venu aux gentils par leur chute. C'est le fait que les Juifs ont chuté, qui ont pu... que Dieu a décidé qu'on deviendrait une branche qui l'a hantée sur l'arbre. Une branche, on n'est pas une branche naturelle, on est une branche qui l'a hantée. C'est comme un arbre, tu colles une branche après, puis si elle reprend vie, on était comme branché sur Israël. Verset 12, il dit, « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur diminution la richesse des gentils, combien plus le sera leur conversion entière? » Très intéressant, c'est tout faire ces liens-là, de voir comment Dieu fait des promesses, comment il les accomplit. Je vois au moins trois applications du texte d'aujourd'hui. La première, louons le Seigneur parce qu'il étend sa bénédiction aux enfants des croyants. Oui. Voyez-vous, Abraham, c'est un croyant, il a eu des enfants, il y en a un qui était Ismaël. Mais même s'il n'était pas il n'était pas sauvé à cette époque-là, là, il y a quand même eu des bénédictions qui sont venues à cause qu'ils étaient les enfants d'un croyant, d'Abraham. Alors, Ismaël reçoit la bénédiction d'une descendance nombreuse, dont certains, éventuellement, dans le temps, recevront le salut des Arabes. Ça, c'est très intéressant de voir que Dieu peut se servir de toi pour bénir tes enfants, même s'ils ne sont pas des croyants. C'est intéressant, ça aussi. Là. Deuxième application, bénissons Dieu pour sa grande fidélité. Il accomplit toujours ses promesses à la perfection, malgré les obstacles. Il peut se présenter, quand on regarde l'histoire du développement de la lignée messianique, ça serait une étude extrêmement enrichissante à faire. Comment Dieu a promis des choses, mais comment le Satan a toujours mis les bâtons dans les roues tout au long pour essayer que la promesse ne s'accomplisse pas. Dieu se rit de ça. Quand Dieu décide quelque chose, comment toute la terre entière se sera mise contre lui, Satan et toute l'armée des anges déchus, ça s'accomplit. Et quand on lit les Écritures avec attention, on voit comment Dieu réalise ses promesses, malgré les obstacles. Alors, connaissons toutes les promesses de Dieu, réclamons-les et donnons-lui notre plus grande confiance, car elles s'accompliront toutes. C'est remarquable comment nous, au 21e siècle, on connaît peu les promesses de Dieu, excepté quelques grandes. Là. Mais quand on parle d'un cartable que j'ai imprimé, qui est ça d'épais, avec toutes les promesses que Dieu a faites sur à peu près tous les domaines de ta vie, combien peu on les connaît? Si j'étais un anglophone, je dirais « shame on me ». Comment ça se fait que je connais si peu les promesses de Dieu, alors qu'il y a une richesse à l'intérieur de ça, que non seulement on a droit d'y... Premièrement, on se devrait les connaître. Deuxièmement, on se devrait les réclamer. On peut dire à Dieu, « Seigneur, tu as promis de la faire. » Puis tu peux y demander, puis Dieu aime ça. Mais malheureusement, on ne les connaît pas assez, mais ça ne veut pas dire qu'à cause qu'on ne les connaît pas maintenant, qu'à partir d'aujourd'hui, on va renvoyer notre fusil d'épaule qu'on va se mettre à les connaître. Entends-nous, Seigneur. Troisièmement, remercions le Seigneur qu'il ait bien voulu inclure des âmes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue dans son glorieux salut en Jésus-Christ. Apocalypse 7, verset 9, on termine par ce verset-là. Ensuite, je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et de palmes à la main. Et vous, on a eu la chance de recevoir une missionnaire, un petit peuple tout petit, je pense sont à peu près 50 000. 50 000 personnes en Afrique, et Jackie Eno a consacré sa vie entière pour leur donner les Écritures. Mais il y a des fruits aujourd'hui, il y a des kéras qui sont des enfants de Dieu à cause du fait que cette personne-là, Dieu dans son plan, quand il dit toute langue, là, je pense, je ne me souviens plus du nombre exact de langues qu'il y a sur la terre, mais il y en a un très, très grand nombre, je ne me souviens plus, mais je ne m'en souviens plus. C'est énorme. Dieu a dit qu'il va y avoir des gens de toute langue, de toute nation, de toute race, de toute tribu, des noirs, des blancs, des jaunes, tout ce que tu voudras. Dieu a dit qu'il donnerait le salut à tous ces gens-là. C'est quelque chose de glorieux. Hein? Alors que notre grand et glorieux Seigneur soit loué, béni et adoré à tout jamais. Amen.